Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Haïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand honneur de vous recevoir dans l'émission Strasbourg Pilote Arts et Lettres à Radio Judaïque à Strasbourg. Je rappelle que vous êtes grand rabbin de France et membre de l'Institut et que ce livre, dont le titre est « Comme l'espérance est violente », ce titre est tiré d'un recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire, « Alcool », et le vers, c'est tout précisément « Comme la vie est lente », comme l'espérance est violente. Vous êtes donc grand rabbin de France depuis 2014 et fort de votre expérience d'homme et de la connaissance intime des textes sacrés, vous analysez notre époque et ses mots. Dire que ce livre a été écrit avant l'événement tragique et barbare de l'attentat du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023 et que vous avez ajouté des pages en prélude où vous abordez ce pan qui est déterminant pour notre époque, peut-être même pour l'avenir du monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que nous parlions d'emblée, donc déjà de cet attentat ?
Globalement, je pense que effectivement, le 7 octobre, c'est ce que Bernard Lévy appelle une formule lumineuse, un événement, au sens qu'il y a une rupture, une déchirure du monde. De tout ce en quoi on croyait, rien ne permettait de prévoir cela, rien ne permet de l'expliquer a posteriori. C'est vraiment quelque chose qu'on appelle dans les systèmes économiques des signes noirs. C'est quelque chose d'imprévisible et qui bouleverse sa façon de penser. Voilà pourquoi j'ai réécrit un prologue après le 7 octobre, parce que tout ce que j'avais écrit ne pouvait pas rester tel quel sans intégrer la pensée après le 7 octobre, qui nous ramène à la barbarie, qui nous ramène à la violence dans notre société alors qu'on fait tout ce qu'on peut. Et quand je dis « on », c'est l'ensemble des pays occidentaux, on fait tout ce qu'on peut pour mettre aux marges ou derrière le limès de nos frontières intellectuelles la violence, mais la violence elle nous percutait. Et là, elle a percuté beaucoup de nos certitudes, le retour de la barbarie, les prises d'otages massives qu'on pensait ne pas pouvoir même concevoir. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement nouveau, ou plutôt de complètement ancien qui refait surface. Et donc c'est vrai que j'étais obligé d'écrire cela au-delà de la réflexion qui avait été la mienne dans l'été 2023. Mais en réalité, et je crois que c'est mon credo absolu, c'est le titre du livre, vous avez raison, qui est tiré du poème « Sous le pont Mirabeau » d'Apollinaire, qui est tiré d'Alcool, il y a une nécessité, mais c'est profondément juif, de se faire violence pour espérer toujours. Comme on le dit par exemple dans le début du Shulchan Aruch, le livre de Rabbi Yosef Karo, « Itgaber ka'ari l'avodat boro »« Lève-toi comme un lion pour servir ton créateur ». L'idée, et c'est étrange d'ailleurs, parce que les lions, on les présente souvent comme des bêtes indolentes, tout en passant leur temps à dormir. Peut-être. Mais quand il a faim, quand il doit faire quelque chose d'important, il a cette capacité à tout bousculer. Je crois que on doit se faire violence pour imposer à notre esprit l'espérance. Et cette violence, c'est la capacité à bousculer les idées reçues, à bousculer l'apathie du monde, à bousculer ce qui nous paraît imbousculable. Et c'est peut-être cette façon d'envisager le 7 octobre qui est la seule façon de l'approcher, si ce n'est de comprendre, parce que je pense qu'on ne peut pas le comprendre, parce qu'on ne porte pas cette haine absolue et de la vie, et de l'autre, et des juifs. Mais la seule façon de l'appréhender, c'est qu'il faut se faire violence, sinon c'est la violence du monde qui recouvrira toute espérance possible. Voilà.
Alors vous dites aussi, le pardon est mort dans les camps de la mort, c'est une citation de Jean... de Vladimir Jankélévitch.
De Jankélévitch, oui.
Oui, alors là, attaquer le 7 octobre 2023, nous l'avons dit, avec une barbarie nue, vous dites aussi, Israël se défend par une guerre existentielle en légitime défense. Est-ce que l'idée, c'est... y a-t-il une possibilité de répondre à cette attaque, si ce n'est par la guerre? Vous avez dit se faire violence pour trouver des raisons plus... peut-être inventer la paix, rallumer les étoiles. Mais il y a cette idée qu'il doit y avoir une guerre de justice, la légitime défense.
Mais au-delà de la légitime défense, on voit bien que, même dans la Bible, mais de manière générale, même les pacifistes conçoivent l'idée que pour se défendre ou pour défendre les autres, les faibles, à un moment ou à un autre, on doit utiliser la violence. C'est tout le principe de la violence légitime, qui n'est plus violence. C'est la force légitime qui... C'est la différence entre la violence et la force, c'est que l'une est légitime, la force est légitime, c'est des États qui, par leur pouvoir régalien, l'utilisent, et la violence, elle est l'œuvre des méchants, des terroristes... Elle est quelque chose qui n'est pas dans un cadre. Et peut-être que la façon juive de voir ces principes, c'est, au-delà de l'espérance, c'est être capable de dire il faut qu'il y ait des gens dans le monde, et je pense à ces soldats israéliens, qui ont 18 ans, 19 ans. C'est pas, il ne faut pas imaginer des soudards assoiffés de sang, comme malheureusement certains les présentent, c'est un scandale. Ce sont des gamins de 18-19 ans qui perdent toute leur innocence pour que la société israélienne puisse conserver la sienne. Donc on n'est pas dans une guerre de soldats les uns contre les autres. C'est des soldats, en fait, de la paix qui affrontent des bourreaux de la mort. Voilà. C'est aussi tranché que cela. Et donc, j'ai même pas besoin de parler de guerre juste. C'est ce qu'on appelle en hébreu, dans la Bible, Milchemet Mitzvah. Mm-hmm. Une guerre qui est une mitzvah, c'est-à-dire qui est une obligation religieuse, au sens que c'est sauver des gens, sauver des vies. Et je pense pas qu'on ait demandé, dans l'histoire du monde, à celles et ceux qui ont livré des combats héroïques, est-ce qu'ils ont pris le risque de faire des guerres justes ou des guerres pas justes? On n'a jamais demandé aux résistants si, quand ils se lançaient dans le combat pour sauver ce qui restait de la France et l'honneur en tout cas de la France, si ils avaient pensé à la guerre juste ou pas la guerre juste. Parce que de rejeter sur Israël la responsabilité, comme si on voulait effacer cette responsabilité tragique d'avoir fomenté ces assassinats, ces massacres, cette négation de l'humain du 7 octobre, c'est un danger moral sérieux pour les pays ou pour les personnes qui s'y livrent.
Il faut aussi décoder la réalité. Israël s'est lancé dans une guerre existentielle. C'est sa peau qu'elle veut sauver. Absolue, donc, et dans une guerre sans recours, il s'agit d'immobiliser, d'arrêter celui qui veut m'éradiquer. C'est une pulsion naturelle.
Mais il faut déjà sauver les otages. La première chose, c'est sauver les otages. Et moi qui ai entouré les famille d'otages pour les 6 mois du 7 octobre, moi j'étais en Israël au 7 avril, je peux vous dire que les familles qui savent qu'une partie de leurs otages sont décédées, certaines ont eu des informations plus précises, et je ne vous dis pas lesquelles, mais elles m'ont dit au moins qu'on nous rende les corps. Et l'armée israélienne est héroïque de faire prendre tous ces risques à ses soldats pour essayer de ramener et les otages et les corps des otages morts. Et on le voit, il y en a eu 3 la semaine dernière. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est l'affirmation d'un pays qui dit « Nous ne laisserons rien pour espérer ramener ne serait-ce qu'un otage. » Et si Dieu veut, ils vont en ramener beaucoup plus. Parce qu'on voit bien les pressions sur Israël pour qu'il arrête les combats. Ça démontre qu'ils sont à 2 doigts de toucher au but.
Mais la communauté internationale ne comprend pas, sauf certains. Et...
La communauté internationale, on peut l'expliquer tout ce qu'on veut, pardon. Hein. Mais moi, j'aime bien la phrase des Israéliens: on préfère vos condamnations à vos condoléances. Mmh. Je trouve qu'à un moment, il faut être, faut arrêter de voir ce que les autres disent. On a connu ça en France, dans des situations où on avait des critiques de partout dans le monde, et on a continué à faire ce qui nous semblait juste. C'est la capacité d'un pays, démocratiquement, n'oublions jamais ça, démocratiquement, à décider ce qui est bon pour ses intérêts vitaux. Et donc on voit bien que c'est le seul pays au monde à qui on dénie la possibilité de défendre ses intérêts vitaux. Donc il y a quelque chose d'illogique, et quand c'est logique, bon, on peut mettre de côté.
Alors, juste encore une petite remarque là-dessus. Votre conviction, c'est que ces peuples, sur ces territoires, n'ont pas d'autre choix que de trouver la force, comme vous l'avez dit, cette force de s'arracher à soi, la force de désigner des dirigeants capables de les emmener vers la lumière d'un dialogue renoué, d'une réconciliation par-delà cendre et terreur. Est-ce une belle figure poétique ? Est-ce que c'est un...
Je veux une figure poétique, moi je... pas un poète. Figure poétique, ce serait m'amuser à faire des rimes, mais je ne veux pas faire ça. Mais je pense qu'on ne doit pas s'enfermer dans des mots uniquement pragmatiques. Et qu'il y a une façon de décrire les choses qui nous permet de les décrire en nous en extirpant, en nous élevant au-dessus des choses. Je pense que la poésie est de cet ordre-là. Je lisais hier Demain, d'Éluard, et c'est... de Robert Desnos, pardon. Je lisais aussi Éluard hier. Mais Demain, c'est de Robert Desnos. Comment on montre... Demain, c'est un poème de 42 qui est incroyable. Comment 1942, c'est le cœur de l'obscurité. Et puis arrive le débarquement à Alger, le 8 novembre. Et puis arrivent quelques nouvelles qui vont commencer à changer l'équilibre global de cette guerre. Il y a des gens qui continuent à espérer. Je dirais plutôt, parce que c'est sombre, il y a des gens qui espèrent. 42, c'est une année terrible. C'est l'année des grandes déportations. C'est l'année de la rafle du Veldiv. Et pourtant, des gens espèrent. Et donc, moi, je crois que la poésie, c'est ce qui nous permet de nous élever au-dessus de l'enfermement dans lequel les mots nous contiennent.
Sans même lire de la poésie, si vous lisez un texte dans une langue étrangère, il y a un flou artistique, vous atterrissez mal sur vos idées, et vous voyez quelque chose, c'est décalé, et c'est, même si vous maîtrisez la langue, c'est décalé, et vous voyez des univers, des arches de choses inespérées. Lire en décalé, c'est vrai, je souscris poésie en langue étrangère, et vous voyez le monde un petit peu différemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé tous ces pans de votre livre qui parlent, par exemple, de langage. Par exemple, la langue de Camus. Qui dit le langage de Camus ? Camus dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et vous racontez aussi, vous dites que à chaque grand moment de notre histoire juive, la sortie d'Égypte, le déluge, il y a eu un enjeu à raconter les choses pour les transmettre et les apprivoiser. Donc le mot dit actualise ce qui s'est passé. Dans nous le revivons avec notre influx nerveux, avec notre capacité cérébrale. Voilà.
Influx nerveux, je ne sais pas, mais vous dites les choses de manière tellement poétique aussi à votre tour. Mais je ne sais pas, je ne vais pas jusque-là. Mais oui, je crois que les mots ont une importance, et beaucoup de gens citent Camus, on pourrait citer Platon, qui disait « la corruption de la cité commence avec la fraude des mots ». Et remarquez que chaque fois qu'on n'arrive pas à décrire quelque chose, on invente une nouvelle façon de la décrire avec un nouveau mot, qui édulcore toujours une réalité. Donc on est, de mon point de vue, dans le déni. Et pour Israël, c'est souvent le cas. D'ailleurs, on parle d'antisémitisme. C'est-à-dire quoi, antisémitisme, antisémite. D'accord. Et les gens vous disent, mais c'est pas possible parce qu'un tel est aussi un sémite. Alors moi, je vous parle de haine des juifs, vous voyez. C'est 10 fois plus clair. Et ça empêche les circonvolutions de langage qui, en fait, embrouillent tout. Alors, rappelez-vous, la corruption de la cité commence avec la fraude des mots. Donc, l'antisémitisme, oui, mais maintenant, il faut parler de haine des juifs. Et quand on commence à dire, est-ce que... ergoter sur le fait que l'antisionisme soit ou pas un antisémitisme, quand ce sont les mêmes mots, les mêmes personnes, les mêmes victimes et les mêmes modes opératoires, bah, c'est la même chose. Donc, l'antisionisme qui vise à nier l'existence, la possibilité de l'existence d'Israël, c'est de l'antisémitisme, puisque ça vise des juifs qui ont établi quelque chose selon la volonté des nations et selon cette promesse qu'ils se faisaient eux-mêmes depuis plus de 2000 ans. Donc, on a là quelque chose qui est un déni absolu. Et en général, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui revendiquent cette possibilité pour tous les peuples du monde, sauf pour les juifs. Donc ça s'appelle l'anti-sionisme, en fait, la haine des juifs. Et je pense qu'il faut à un moment dire les choses clairement.
Que recouvre ce mot, cette idée, ce continent, la haine des juifs ? Est-ce que c'est une conséquence du catholicisme, des nouvelles religions ?
C'est éradiqué complètement. L'antisémitisme catholique a été complètement éradiqué de l'Église. Et même si c'est le cas, d'ailleurs, l'Église continue un travail assez bouleversant. Ils viennent de sortir, d'ailleurs, la Conférence d'évêques de France vient de sortir un livre dont ils m'ont fait l'honneur de me demander la préface, que j'ai fait, sur la déconstruction de l'anti-judaïsme chrétien. C'est incroyable le travail qui a été fait. Je vous engage à lire un livre bouleversant d'une fille qui s'appelle Nina Valbousquet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les âmes tièdes » sur le Vatican face à la Shoah. C'est un livre incroyable. Cette fille, Nina Valbousquet, a plongé pendant 3 ans dans les archives du Vatican, de Pie XII, et elle appelle son livre « Les âmes tièdes », reprenant une phrase de Camus de 46 qui reprochait son silence au Vatican pendant la guerre. Et Camus disait « Nous avons eu au Vatican des âmes tièdes, là où nous aurions rêvé d'avoir des cœurs brûlants. » Mmh. Ce qu'elle fait, ce qu'elle explique, c'est qu'avec les documents internes, elle a plongé 3 ans dans les archives. Donc elle a tout. Elle démontre que oui, l'Église savait tout, les Einsatzgruppen, les chambres à gaz, les crématoires, les modes opératoires, les enlèvements, tout. Et l'Église considère que, bon, d'ailleurs les Juifs exagèrent toujours, les Juifs font de l'argent et s'en sortiront toujours, et puis après tout, ils l'ont bien cherché avec ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. C'est dit aussi froidement que je viens de vous le dire. Et ben moi, je trouve que c'est incroyable. De là où vient l'Église, il a fallu qu'un homme, une seule personne, le cardinal Roncalli, c'est-à-dire Jean XXIII, décide de changer de façon de voir les choses, lui qui avait été injuste, en tant que nonce apostolique à Istanbul, puis après la guerre, nonce à Paris, parce que le général de Gaulle avait écrit au Vatican pour leur demander de se débarrasser de cette crapule qui servait de nonce apostolique à Paris pendant la guerre, et qui était inféodé et à Vichy, et à tous les tourments que la France a subis. Et donc Valério, il vire Valério, et c'est le cardinal Roncalli qui vient, et qui deviendra ensuite le pape Jean XXIII. Cet homme, seul, a amené l'Église à lancer le Concile Vatican II, puis à sortir de Nostra Aetate, et même s'il est mort au moment de la sortie de Nostra Aetate, parce que c'est le pape Paul VI, qui va en 65 publier dans ce traité, il n'empêche qu'il a révolutionné la position de l'Église par rapport aux autres religions, et au judaïsme en particulier. Et aujourd'hui, on est moins de 60 ans après nos traités, mais c'est incroyable ce chemin. Quand vous lisez le livre de Nina Valbousquet, vous vous dites « c'est pas possible ». Et pourtant, c'est possible. Donc moi, je pense que c'est une immense leçon d'espérance. Ça, et ce dont nous parlions avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de retrouver un chemin du possible.
Alors actuellement, que recouvre cette molécule, la haine du juif ? Est-ce que vous pouvez nous l'évoquer ?
Là, je vous ai parlé de la haine l'anti-judaïsme chrétien. Disons globalement, il n'existe plus.
Voilà, bon.
Il existe de manière parcellaire. Et puis, il y a des haines liées à ce que les juifs ont toujours représenté, ce sentiment de réussite, ce sentiment de surplomber les choses, des haines liées aussi à des conflits passés, des conflits coloniaux. Les juifs qui étaient rejetés de partout sont maintenant vus par certains comme l'archétype même de l'État colonial et du colon qui envahit les braves gens. Enfin, faut voir d'où on vient, faut voir le glissement terrifiant de la gauche qui encensait Israël parce que c'était le pays des kibboutz, à maintenant, la gauche, encore, je ne suis même pas jusqu'à l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, ça compte même pas, enfin, au sens de la pensée, c'est de la haine pure, mais la gauche qui fait d'Israël le pays colonisateur, alors que ce sont les mêmes personnes qui étaient dans les kibboutz et qui défendent ces kibboutzim, justement, qui défendent cette vision du monde qui est une vision de partage. Que je sache, j'ai jamais vu en Israël quelqu'un penser qu'il fallait retirer tous les Arabes d'Israël. Alors que malheureusement, en face, on voit des gens qui ont activement fait en sorte qu'il n'y ait plus de juifs et dans les États arabes et dans les territoires contrôlés par les Palestiniens. Donc on a une dissymétrie insupportable entre le bien et le mal, entre ce qu'on accepte des uns et ce qu'on refuse aux autres. Bon, ça me paraît quand même incroyable. Et donc il faut comprendre que l'antisémitisme n'est pas lié à un mode de pensée. Parce que si on le fait, on en vient presque à trouver logique, à défendre une logique de l'antisémitisme. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de logique, que c'est de la haine pure, qui cherche un prétexte et pas de logique.
Vous avez parlé de Jean 23 et ce serait bien aussi de mentionner Jacques Chirac dans son discours du Veldiv en juillet 95. Et Jacques Chirac qui assume la vérité sur l'implication de la France dans la déportation des Juifs tout en condamnant définitivement et au nom de l'esprit français lui-même ce qui fut défaite et déroute de cet esprit même. L'esprit français ne doit pas être entaché de et par les mots de Jacques Chirac. Ça a été pas nettoyé, pas assaini, mais ça a été remis en perspective.
En 95, le président Chirac, sa première cérémonie du Veldiv en tant que président, a effectivement ces mots bouleversants. Ce jour-là, la France commettait l'irréparable. C'est vrai qu'il a aussi changé la façon qu'on avait de raconter l'histoire. Mais pour aller plus loin, si je l'ai pas cité tout à l'heure, c'est parce que je parlais des papes, et qu'il n'est pas encore pape, et pas encore saint, mais ça viendra peut-être, remarquer. Pape, c'est un peu trop tard, mais saint, tout est possible, vous savez. C'était en 95, ok. 1995. À ce moment-là, on était 20 ans, 21 ans exactement, après l'inauguration du pavillon français à Auschwitz, qui avait eu lieu en 1974, qui avait été fait par le CRDP, c'est-à-dire c'est régional de Besançon, en fait le centre régional, CRDP, centre régional d'archives, je ne sais pas, un truc, en fait, qui compile tous les documents de l'éducation nationale, de Besançon. C'est vous dire à quel point on avait régionalisé le truc et qu'on considérait que ce n'est pas une question nationale. Le CRDP de Besançon avait donc fait le pavillon français d'Auschwitz et il avait raconté ce qu'on croyait en 1974, c'est-à-dire nous sommes tous des héros, tous des résistants. C'est simple histoire. Malheureusement, 1974, c'est 4 ans avant Paxton et Marus qui nous disent une mauvaise nouvelle. Nous n'avons pas tous été des résistants. Loin s'en faut. Mais on ne bronche pas. 94, c'est l'anniversaire de la libération de Paris, on ne bronche toujours pas. 95, discours du Veldiv du président Chirac, changement de paradigme complet, ce jour-là, la France commettait l'irréparable, on ne bouge toujours pas. 2002, je fais un deuxième voyage à Auschwitz, et je vois le pavillon français, je suis défait. Parce que rien n'a changé. Le pavillon français à Auschwitz raconte toujours la même histoire. Ce que je vous disais à propos de Platon, la corruption commence toujours par la fraude des mots. Et l'histoire qu'on racontait était une histoire fausse. On le savait, mais elle nous rassurait d'une certaine manière. Donc on fait une note au président de la République et au Premier ministre. Et en 2003, le Premier ministre, qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin à l'époque, au dîner du CRIF, annonce qu'il va reformer, ou disons reprendre, le pavillon français d'Auschwitz. Et il est inauguré le 27 janvier 2005, par le président de la République. Et là, il tient compte de cette nouvelle historiographie et de son discours du Veldiv. Autrement dit, il a quand même fallu 10 ans, 95-2005, pour qu'on inscrive dans les faits la force qu'il avait su trouver par ses mots. Comme si rien ne peut se faire s'il n'y a pas des mots, mais il n'y a qu'en mais quand il n'y a que les mots, ça ne suffit pas, il faut encore les transcrire, ces mots, dans les actes et dans la réalité. Et moi, ce que je dis dans mon livre, peu de choses près, c'est la même chose. Il faut d'abord les mots pour créer une espérance, et comme l'aurait dit Edmond Fleg, qui était le grand homme de l'espérance, l'espérance n'est pas que l'espérance, elle est le chemin qu'elle indique. Ben, c'est formidable. Il a donc fallu 10 ans pour qu'on passe des mots aussi justes du président ou à la réalisation du pavillon français d'Auschwitz.
Alors dans ce livre très intéressant que vous avez écrit, dont le titre est « Comme l'espérance est violente », vous parlez de la guerre contre divers et plusieurs fronts, le Covid, le terrorisme, dysfonctionnement climatique, état-nation, crise ukrainienne. Et moi, j'ai beaucoup aimé le passage sur la droite et la gauche au regard de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous en reparler, Chaïm Korsia?
Ça joue un front renversé. Dans la conscience collective, la droite, c'est la rigueur, la force. Et la gauche, c'est la miséricorde, la bienveillance. Dans la Bible, c'est exactement l'inverse. Remarquez, on lit bien les textes de droite à gauche, donc on peut aussi inverser les choses. Mais c'est l'inverse. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible qui spécifient cette différence. Par exemple, le dernier verset du prophète Jonas est marqué par Dieu qui reproche à Jonas qui hurle, je préfère mourir que vivre parce que Dieu a fait mourir son petit arbre là qui lui donne un peu d'ombre. Et Dieu lui dit, toi tu pleures pour un arbre et tu n'as pas de peine pour les dizaines de milliers, de myriades de mes enfants qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Puis il y a tout le principe. Donc en fait, ça prouve bien qu'il y a une différence entre les deux. Notre idée actuelle de dire bon, c'est la même chose, non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai toujours considéré d'ailleurs qu'il y a des différences. Mais ceci dit, il faut impérativement que les intelligents de droite travaillent avec les intelligents de gauche. C'est ridicule d'être hémiplégique chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir. Donc, il faut qu'il y ait des différences sans qu'il y ait d'impossibilité de vrai ensemble.
Alors, finir cette interview avec votre permission, monsieur.
Je pourrais développer en 2 secondes.
Oui, bien sûr.
Quelque chose. Non, mais regardez. Imaginons que la droite soit, imaginons peu importe la droite, la gauche, il y a un modèle très précis dans la Bible d'une organisation pilotée par 2 vocations différentes. C'est Moïse et Aaron. Ils sont ensemble. Mmh. Moïse, c'est la rigueur, c'est le chef. Il botte les fesses du peuple et qui sont pas contents. Et Aaron, c'est le gentil, il les console, il les calme, il est OF Shalom, il aime la paix, il rapproche les gens, c'est le gentil. Okay. Quand il n'y a que Aaron, parce que Moïse est occupé, Moïse est sur le mont Sinaï, il est en train de recevoir la Torah, il n'est pas là, il n'y a que Aaron. C'est un gentil, il n'ose pas s'opposer au peuple. Le peuple lui dit, donne-nous un dieu, fais-nous un truc, il leur fait le veau d'or. Donc c'est là que la miséricorde dans la société, ça ne marche pas. Ok, quand il n'y a que Aaron, ça, je vous ai expliqué. Quand il n'y a que Moïse, parce que Aaron est mort, il n'y a que Moïse tout seul, bah, il a des grèves tous les jours. Il a des grèves tous les jours, il a des gilets jaunes sur les carrefours, enfin, il n'y a peut-être pas beaucoup de gilets jaunes dans le désert, mais c'est l'idée. Il est sans arrêt soumis à la pression du peuple qui ne supporte pas d'avoir un leader aussi dur, aussi qui les pousse à aller de l'avant. En fait, il faut à la fois la force de l'un et la capacité de bienveillance du second. S'il n'y a pas les deux ensemble, c'est un peu compliqué. Voilà.
C'est l'idée du lion, finalement, avec cette force contenue, massive, retenue, et une possibilité de compréhension et de passer à l'action avec la maturité, la maturation de la situation par ce lion qui est indolent, qui est sous le soleil, qui a les yeux qui se ferment, qui s'ouvrent. C'est une idée de force tranquille.
Oui, oui, force tranquille, mais comme ça a déjà été utilisé par le passé, je n'ose pas reprendre. Mais disons qu'il peut y avoir de la tranquillité que si la force est capable de s'exprimer en étant toujours pondérée par la bienveillance. Mon maître, quand il priait, mettait sa main gauche, qui incarne la force dans le judaïsme, puissance, dans sa main droite, qui incarne la miséricorde, comme s'il fallait toujours qu'il y ait un gant de miséricorde sur la puissance de la force. Au fond, c'est ce que fait l'armée israélienne en ce moment. en mettant tellement de précautions éthiques dans l'utilisation de la force qu'elle est obligée d'ailleurs de perdre tant de ses enfants, tant de ses soldats.
Alors, peut-être dire un tout petit mot du grand rabbin Emmanuel Chouchna, qui est votre maître et que vous avez cité dans votre livre, et puis peut-être aussi à la fin, expliquer ce vers tiré d'alcool de notre auteur Guillaume Apollinaire. Comme l'espérance est violente, est-ce qu'on n'aurait pas pu inverser? Comme la vie est violente et comme l'espérance est lente.
Ah non, on n'aurait pas pu le dire, je veux dire pourquoi.
Ah oui.
Parce que nous sommes, en tant que juifs, on connaît une chanson qui s'appelle Anima Amin. Je crois, Anima Amin Bemuna Shelema. Je crois avec une foi absolue. Béviat Hamashiach dans la venue du Messie. Ve'af alpi sheit ma'amea. Et même s'il traîne cette espérance lente dont vous parlez, auriez. Acha kelo et chavou. Moi, je l'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est pas tant la lenteur qui m'empêche d'attendre, parce que j'attends quoi qu'il y ait. C'est, moi, je pense que c'est vienne la nuit, sonne l'heure. Même quand la nuit vient, et quand l'heure nous semble irrémédiablement aller contre nos intérêts, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Oui, espérer, ça peut parfois faire mal, mais il faut se faire mal pour pouvoir assumer cette espérance qui, seule, peut nous permettre de comprendre le monde. En tout cas, de le voir avec les yeux que le judaïsme a toujours voulu garder ouvert. Et moi, je pense que c'est la force du judaïsme. Mais c'est peut-être notre responsabilité à instiller dans le monde quelque chose de notre espérance.
Monsieur Haïm Korsia, grand rabbin de France, je vous remercie infiniment pour cet entretien clair, généreux, sincère, par rapport au livre que vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion, Comme l'espérance est violente. Et votre prochain livre, est-ce qu'on peut vous demander sur quoi vous envisagez de travailler?
Ah, il y a du fun et du pas fun. Le pas fun, c'est que dans 10 jours sort un tract, c'est un petit livre très rapide, sur la fin de vie, que j'ai appelé Aide à vivre. J'en ai marre qu'on parle d'aide à mourir, oui, sans qu'on réfléchisse clairement là-dessus. Donc j'ai appelé ça Aide à vivre.
Très bien.
Et puis en septembre, on va sortir un livre à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Edmond Flegg, qui s'appelle Ma vie avec Edmond Flegg. Donc voilà, on aura une grande réflexion sur Edmond Flegg, qui lui a fait de l'espérance son mantra absolu.
Rappelez-vous,
je suis juif. Non, pourquoi je suis juif? Je suis juif, oui, parce que le juif espère quand tout le monde a oublié d'espérer.
Voilà. C'est très beau, cette dernière phrase que vous venez de dire. Et j'avais lu quelque part que vous alliez écrire sur Dreyfus. Est-ce que j'ai rêvé?
Non, j'ai en fait... Je ne sais pas où vous avez lu ça, parce que quelqu'un d'autre m'en a parlé. En fait, ça a peut-être été mal dit, mais j'écris sur Flegg, qui, lui, avait été percuté par l'affaire Dreyfus. Flegg, né en 1874, il a donc 20 ans au moment de l'affaire Dreyfus. Et ça le marque profondément. Donc, je n'écris pas sur l'affaire Dreyfus. Je pense qu'il y a assez de livres qui ont été écrits dessus, même s'il y a tant et tant à dire sur cette affaire.
Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.
Monsieur le grand rabbin de France, monsieur Haïm Korsia, pour ce livre passionnant, dont le titre est « Comme l'espérance est violente », et ça paraît aux éditions Flammarion. À bientôt, plaisir de parler encore avec vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.